Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Manque d'entretien des cours d'eau, bétonnage à outrance. Les habitants du sud-est de la France tentent de comprendre. En quelques jours, 6 personnes y sont mortes pendant les intempéries. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Reportage ensuite à Washington, où les défenseurs d'une meilleure régulation des armes à feu se sont réunis hier soir. Ils attendaient une décision de la Cour suprême à ce propos. Et puis, pourquoi le fait de décrire l'antisionisme dans une proposition de résolution qui vise à mieux lutter contre l'antisémitisme? Pourquoi cela pose-t-il question? Argument des pour et des contre dans cette édition. Les inondations à répétition sur la Côte d'Azur auraient-elles pu être évitées? Après avoir subi 2 montées des eaux en 8 jours, certains sinistrés posent la question, notamment dans le quartier du port de Mandelieune à Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Des habitants s'interrogent sur la lenteur de la construction de bassins de rétention, Jérôme Jadot.
Les inondations à répétition, la faute à une urbanisation galopante, reprochent certains sinistrés, le tout bitume et tout béton qui favorise les accumulations d'eau dans la ville. Christian habite le quartier du port, 3 fois inondé depuis 2015.
Au lieu de refaire un village tout beau, tout neuf pour les touristes, ils font pas les travaux pour ceux qui sont là à l'année et on a toujours les pieds mouillés en hiver, quoi. S'ils veulent garder les gens du village, il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que le bac de rétention n'a toujours pas été fait.
Le bassin de rétention, c'est un projet lancé en 2011, un réservoir en quelque sorte pour recueillir le trop-plein d'eau. Mais s'il n'est pas encore construit, selon le maire LR Sébastien Leroy, c'est à cause du législateur.
La loi française oblige une quantité monstrueuse de données, de travaux préalables pour convaincre différents services, qui fait que malgré la volonté des élus locaux, des agents de l'État sur le terrain, rien n'avance parce que c'est la loi et qu'on perd des décennies à suivre des règles qui sont datées du siècle dernier, très clairement.
Selon le maire, c'est également à cause de la paperasse et des procédures qu'est retardée la mise en place de protections étanches autour des copropriétés. Il espère pouvoir les réaliser l'été prochain.
Et plus au nord, dans les terres, entre Manosque et Sisteron, dans la commune d'Aimé, un rocher s'est effondré. Hier, 2 personnes ont été légèrement blessées. Au total, depuis le week-end, je vous le disais, 6 personnes sont mortes. Une femme est toujours recherchée ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est brièvement rendu dans la région hier soir. Ce mardi, le président de la République, Emmanuel Macron, est à Londres pour le sommet de l'OTAN qui doit durer 2 jours. Ce 70e anniversaire de l'organisation s'annonce tendu, notamment en raison des divergences entre 3 des principaux acteurs de l'Alliance Atlantique, le Français Emmanuel Macron, l'Américain Donald Trump et le Turc Recep Tayyip Erdogan. Ambiance d'autant plus crispée qu'hier soir, l'administration Trump a menacé d'imposer des droits de douane additionnels sur des produits français, des surtaxes pouvant aller jusqu'à 100%. Il s'agit d'une réponse à l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique. Les États-Unis, où la Cour suprême se penchait hier et pour la première fois depuis près de 10 ans, sur la question des armes à feu. Les 9 magistrats, conservateurs en majorité, n'ont rien décidé sur le fond hier, mais les militants pour un plus grand contrôle des armes à feu dans ce pays, les militants étaient présents pour faire entendre leur voix hier. C'est un reportage de Grégory Phillips.
Avec sa pancarte sur laquelle est écrit que les lois sur les armes sauvent des vies, George est venu manifester devant cette Cour suprême sous les fenêtres des 9 magistrats les plus puissants du pays. S'il est là, c'est aussi pour témoigner.
2 membres de notre famille se trouvaient chez eux quand un gamin de 17 ans est venu frapper à leur porte et leur a tiré dans la tête. C'était en 2008. Ce jeune a été arrêté et condamné à la prison à vie dans un pénitencier au Texas. Toute cette histoire nous a anéantis, mais le combat pour un contrôle plus fort des armes à feu nous a permis de nous relever.
Les dernières enquêtes d'opinion montrent que plus de 60% des Américains sont favorables à un contrôle accru des armes à feu, avec une proportion beaucoup plus forte chez les électeurs démocrates que chez les républicains. Mais pour la présidentielle de l'an prochain, George, le Texan, espère que la question des armes sera centrale et portée par le camp démocrate.
Oui, je suis certain qu'ils en feront un sujet de débat, et ça, c'est grâce à notre mobilisation.
Hier, la Cour suprême devait se prononcer sur une loi de l'État de New York qui limitait drastiquement le droit de circuler en ville avec une arme. Mais les 9 juges n'ont pas tranché sur le fond et ont reporté leur décision à l'été 2020, environ 4 mois avant l'élection présidentielle.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Le jour où la Banque centrale annonce un effondrement de l'activité économique chilienne, le gouvernement du Chili présente un plan de relance. 5,5 milliards de dollars en plus pour le budget de l'année 2020. Voilà donc le plan proposé hier par le ministre des Finances chilien. Depuis un mois et demi, je vous le rappelle, le pays vit une crise sociale inédite. Nous irons sur place lors du journal de 7 heures. À 6h35 sur France Culture, continuons ce journal avec un débat qui anime les rangs de l'Assemblée nationale et plus encore. Les députés examineront aujourd'hui une proposition de résolution visant à lutter contre l'antisémitisme en modifiant sa définition. Ainsi, l'antisionisme, la critique envers Israël, est ajoutée. Pierre Tartakovko est président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et il le regrette. Il évoque un texte étrange et malvenu.
Cette définition qui est proposée est accolée à un certain nombre d'exemples qui ont pour caractéristique commune de tracer un trait d'égalité entre l'État d'Israël et les communautés juives ou les juifs. Ça, c'est évidemment très très embêtant parce que d'abord c'est une assignation à résidence extrêmement autoritaire, discriminatoire, de tas de gens qui sont juifs, ou qui se sentent juifs, ou qui sont d'origine juive et qui ne se reconnaissent absolument pas dans la politique menée par l'État d'Israël. Et d'une certaine façon, ça peut aboutir à se retourner en son contraire. Nous avons plutôt besoin d'universalité et certainement pas de repli ou de division supplémentaire.
C'était Pierre Tartakovsky, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Voici maintenant la réponse du député de Paris, Sylvain Maillard. Il préside, lui, le groupe d'études à l'Assemblée nationale sur l'antisémitisme et il soutient la proposition d'Emmanuel Macron.
Évidemment qu'on pourra et on devra continuer à critiquer les gouvernements israéliens, quels qu'ils soient, et surtout les aspects, y compris sur les frontières. En aucun cas, cette résolution ne remet en cause ceci. La seule chose que l'on dit, c'est qu'on ne peut pas remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël pour attaquer directement nos compatriotes juifs en estimant que, en fait, un Français juif est avant tout un Israélien. Ça, c'est de l'antisémitisme et ça, on doit le combattre.
Des propos recueillis par Pierre Neveu. Les professionnels du BTP vont consulter leur base. Après avoir obtenu hier des avancées sur plusieurs de leurs revendications, ils étaient à Bercy. Ils n'ont en revanche pas eu de garantie concernant la suppression de l'avantage fiscal pour le gasoil non routier. La CFDT Cheminots appelle ses militants à rejoindre la grève de jeudi contre la réforme des retraites, une grève reconductible, faute d'engagement du gouvernement, voilà ce que souligne le syndicat, qui rejoint donc la CGT Cheminots, l'UNSA Ferroviaire et Sudrail. En bref, encore notons que Sylvie Goulard a été mise en examen. L'ancienne ministre est soupçonnée d'avoir détourné des fonds publics. Il s'agit toujours de l'affaire des postes d'assistants parlementaires du MoDem, des postes présumés fictifs. La France a désormais son conseil de déontologie journalistique. Une instance critiquée par une partie de la profession qui promet pourtant d'être une solution à la défiance du public vis-à-vis des médias. Sorte d'instance d'autorégulation et de médiation comme il en existe déjà dans certains pays européens. Elle débute donc en France et devra d'abord prouver son utilité et son indépendance, Maxime Tellier.
L'heure est trop grave aux yeux des partisans du Conseil de presse. La défiance des Français à l'égard des médias est trop haute. Il faut donc trouver des solutions. Laurent Mauriac est le président de BriefMe, un média qui explique l'actu tous les soirs par email. Et lui va adhérer au Conseil en tant qu'éditeur.
On est en relation très étroite avec nos lecteurs et on constate qu'il y a énormément de défiance et que souvent, derrière cette défiance, il y a des malentendus, il y a une méconnaissance du fonctionnement des médias et que le dialogue est vraiment un outil indispensable.
Même constat pour la journaliste Jennifer Deschamps du collectif Informé n'est pas un délit. Elle garde en tête tout de même les critiques adressées par sa profession à cette nouvelle instance.
Pour nous, c'est important en fait d'être présent au sein des travaux, en fait d'être un moteur positif. On est aussi là en tant qu'observateur parce qu'on est tout à fait conscient des critiques qui sont émises vis-à-vis de ce conseil de déontologie. La politique de la chaise vide, c'est pas une bonne politique.
Une position inverse à celle de la Société des journalistes de Mediapart à l'initiative d'un communiqué très critique à l'égard du conseil de presse et signé par une vingtaine d'autres SDJ. François Bonnet, journaliste à Mediapart, était présent hier.
On ne peut pas parler de manière abstraite de déontologie. Il faut parler de choses beaucoup plus précises. La question de la propriété des médias, la question de la transparence sur les comptes des journaux. Pourquoi de grands journaux, propriétés de milliardaires, reçoivent-ils des millions et des millions d'euros chaque année de subventions directes?
Pour François Bonnet, le contexte français de concentration des médias ne permet pas un fonctionnement efficace de ce conseil qui sera tripartite. Journalistes, éditeurs et publics seront représentés. Mais pour l'instant, aucun grand média n'a encore rejoint cette instance.
C'était Maxime Tellier pour France Culture. La vigilance orange sur le sud-est est levée ce matin alors que débute une journée sans pluie. Une journée sèche mais brumeuse ce matin. Le soleil brillera sur l'ensemble du pays cet après-midi. D'ici là, comptez 1 degré à Besançon et Lille, 2 degrés à Lyon et Bordeaux, 3 à Paris, 12 degrés ce matin à Nice.